France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. Mylène Farmer pour de vrai. Deuxième partie, la chanteuse qui venait du froid. Mylène Gauthier, pas Farmer, celle qui existe pour de vrai donc, est née au Québec, pays des castors et des forêts d'érable, et en a gardé l'amour de la neige et des grands espaces, on l'a dit. Sa créature, en revanche, Mylène Farmer, a transposé cet amour dans un pays à l'aura tragique et romanesque, un pays secoué par l'histoire, un pays dont Dostoïevski disait que son besoin le plus élémentaire était la nécessité de la souffrance. Je veux parler de la Russie. Dans l'un de ses clips les plus longs, celui de sa chanson Tristana, 11 minutes et 33 secondes, Farmer interprète justement une version russe du conte Blanche-Neige et les Sept Nains, disant son texte directement dans la langue de Tolstoï.
Давай поженимся после войны.
Война? Революция? Послушай.
Да?
Послушай.
Mylène Farmer semble imprégnée par l'esthétique tragique de l'histoire soviétique. Précisons que quand Tristana sort en 1986, le mur de Berlin n'est pas encore tombé. Dans les années 90, avec Boris Yeltsin au pouvoir, on parle de fin de l'histoire, de réintégration de la Russie au sein de la fratrie européenne. Elle interprète « Désenchantée » avec là encore un long clip tourné en Europe de l'Est. Et puis en août 2000, un homme, encore relativement peu connu, y compris dans son propre pays, accède à la tête de la Fédération de Russie. Vladimir Vladimirovitch Poutine est un homme qui n'a certes jamais été pris en flagrant délit de joie, d'attendrissement ou même d'un authentique sourire, mais on ne pense tout de même pas à l'époque qu'il va devenir un dictateur pur et simple, on imagine plutôt qu'il va consolider les acquis démocratiques de la Russie post-soviétique. Quelques mois avant que Poutine n'accède au pouvoir, Mylène Farmer s'était rendue dans le pays. Le 3 mars 2000, à la veille de deux dates prévues à l'arène olympique de Moscou, elle était invitée sur la radio Europa Plus, la station la plus en vue du pays et l'une des plus écoutées.
Mylène Farmer, sur Europa Plus.
Le 8 mars, on la retrouve au complexe sportif et scénique de Saint-Pétersbourg, un stade qui peut accueillir jusqu'à 25 000 personnes. Ce même jour, on l'entend sur une autre des grandes stations du pays, Eldoradio.
Эксклюзивное интервью Mylène Farmer на Eldoradio.
Добрый вечер, Милен. Мы диджеи радиостанции Eldoradio, которая является информационным спонсором вашего концерта.
Здравствуйте.
Вот нашим слушателям старшего поколения было бы очень узнать интересное мнение об Эдит Пиаф.
Dans notre culture.
Без сомнения, в нашей французской культуре это фигура знаковая. Без нее нельзя обойтись.
Это
очень сильная личность. Но, пожалуй, самое главное, это то, что Эдит Пиаф умела...
Сергей Чикалов, vous êtes né en Russie en 1986 et vous vivez en France depuis plusieurs années maintenant. On vous doit le livre « Espèces dangereuses au seuil » dans lequel vous parlez notamment de Mylène Farmer. Vous mettez même en exergue de ce livre un extrait de sa chanson « Puisque ». D'où vient votre affection pour le personnage de Mylène Farmer ?
Alors, j'ai découvert Mylène Farmer en 2000, entre 12 et 13 ans.
Donc au moment de cette tournée dont on a entendu des extraits à la radio.
Exactement. Je me souviens avoir vu un spot publicitaire qui m'a marqué acoustiquement et visuellement. Parce que Mylène Farmer, l'univers qu'elle a su créer avec Laurent Boutonnat, c'est à la fois musical et très très visuel et c'est très marquant. Dans ce spot publicitaire, dans le cadre de sa tournée Millennium Tour, on la voyait juchée sur une cage égarée dans l'océan. Et il y avait dans cette image quelque chose de troublant et à la fois de très doux et paradoxalement de très sécurisant. Et bien sûr, j'ai été happé par sa voix envoûtante, cristalline, je la connaissais pas. Et ça m'a poussé à aller plus loin et la découvrir. Je suis tombé amoureux musicalement parlant et linguistiquement parlant aussi, parce que c'est aussi elle qui m'a donné l'envie d'apprendre la langue française, et d'écrire aussi.
Vous avez appris le français grâce à Mylène Farmer.
Ah oui, oui, oui. Grâce à mes profs à la fac aussi, mais c'est vrai que c'était ma prof particulière.
La chanson Tristana, elle date d'un an après votre naissance. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti en découvrant le clip et en vous rendant compte que ce clip se passe en Russie et que Mylène Farmer y parle en russe?
Comme je ne parlais pas la langue française, je ne savais pas de quoi parlait la chanson. Il n'y avait pas l'Internet quand j'ai découvert la chanson. Je me suis acheté une cassette vidéo, une VHS pirate, sur laquelle il y avait l'intégralité de ce clip. Et je suis tombé sur les premiers clips, donc Libertine, puis Plus grandir, puis Libertine, pourvu qu'il soit douce, et Tristana. Et bien sûr que j'ai été surpris de l'entendre parler russe, de voir que ça se passe visiblement en Russie, avec des images d'archives de la révolution des bolcheviques.
Dans quel sens ça vous a surpris, en bien ou en mal?
Parce que... En bien, oui, en très très bien, parce que déjà j'ai trouvé que le clip est très beau, comme tous les clips réalisés par Laurent Boutonnat. Et puis c'était aussi inhabituel de voir un clip aussi long, aussi développé, avec une histoire derrière, avec presque 5 minutes d'intro, avec un épilogue. C'est extraordinaire.
Donc on le voit, Sergueï Chikhalov, elle peut remplir 3 stades en Russie lors d'une tournée. Est-ce que ça signifie qu'elle était extrêmement populaire au début des années 2000 en Russie?
Oui, et même avant, dans les années 90... Disons que je dirais qu'il y a beaucoup de Russes francophiles et pas mal de francophones aussi. Ils ont toujours eu beaucoup d'appréciation pour des artistes francophones, français, belges ou québécois. Mais Mylène Farmer a toujours été très présente. C'est pour ça qu'il a su remplir vraiment 2 énormes arénas à Moscou et une salle à Saint-Pétersbourg en 2000. Et elle a refait l'exercice en 2009 et en 2013. Donc oui, c'est une star, mais au-delà d'être une star, c'est quelqu'un de très respecté et apprécié.
Encore aujourd'hui?
Encore aujourd'hui, oui.
Alors votre livre « Espèce dangereuse » raconte cette décennie 2000 où la société russe s'est libéralisée, où il a été possible davantage, en tous les cas, aux homosexuels d'imaginer vivre sans se cacher en Russie. Est-ce que Mylène Farmer fait partie de cette histoire-là, ou est-ce qu'elle en fait partie au moins pour vous?
Alors, ce qui est très intéressant pour moi, c'est que contrairement à la France, où elle semble avoir cette étiquette de l'icône gay, ce n'est pas du tout le cas en Russie ou dans les autres pays de l'espace ex-soviétique, notamment la Biélorussie ou l'Ukraine, où elle est très connue et très appréciée également. Donc, elle n'a pas cette étiquette. Et d'ailleurs, pour moi, c'est pas tout à fait judicieux de la qualifier d'icône gay en France ou ailleurs. Moi, ça fait plus de 25 ans que je l'écoute. Ça fait plus de 25 ans que je côtoie, si on peut appeler cette communauté une communauté, la communauté des fans de Mylène Farmer. Et on y rencontre toutes sortes de fans, toutes sortes d'admirateurs et admiratrices, des familles nombreuses, des couples hétérosexuels, des homosexuels, tous et toutes sensibles à sa musique, à ce qu'elle fait. Maintenant, je ne sais pas si on peut sexualiser le public de Mylène Farmer en Russie. En tout cas, pour apprécier Mylène Farmer, je pense qu'il faut avoir une certaine ouverture d'esprit pour ne pas être choqué par l'image. Et puis, lorsqu'on arrive à comprendre les paroles, lorsqu'on parle français, il y a aussi certains sujets qu'elle aborde qui peuvent être choquants pour certains, pour certaines.
Qu'est-ce qui peut choquer, par exemple, pour ceux qui comprennent les paroles?
Par exemple, la chanson « Pourvu qu'il soit douce », qui aborde le sujet la sodomie, ou bien « Sans contrefaçon », qui aborde des sujets identitaires, ou « Je te rends ton amour », le clip, qui a pu choquer, d'ailleurs ça a été censuré en France, qui a pu choquer les croyants catholiques.
Donc ça choque en France, ça choque aussi en Russie, peut-être moins parce que les paroles sont moins comprises.
Exactement. Donc ce qui est surprenant, le clip de la chanson « Je te rends ton amour » qui a été censuré en France, ne l'a pas été en Russie. Et il passait dans sa version intégrale sans que ça choque qui que ce soit.
Tristan, t'es живая или мертва?
Я не знаю.
Так Sergueï Chikhalov, que savez-vous du rapport de Mylène Farmer à la Russie, dont on a entendu qu'apparemment elle parlait un petit peu la langue?
Je ne sais pas si elle parle la langue, mais en tout cas, elle a appris ses répliques. Elle l'a fait très bien.
Elle a un bon accent?
Oui. Elle a appris ses répliques pour Tristana, et puis je crois qu'elle a dit à plusieurs reprises être passionnée par le cinéma russe. Il me semble qu'elle apprécie les films d'Andrei Tarkovsky.
Qui est un cinéaste expérimental,
oui.
Qui en effet a beaucoup inspiré beaucoup de cinéastes occidentaux.
Tout à fait. La littérature russe.
C'est vrai que c'est étonnant qu'elle ait adapté Blanche-Neige et les Sept Nains en Russie. Elle aurait très bien pu le faire au Canada, son pays de naissance. Ça signifie qu'il y a pour elle quelque chose en plus à finalement décentrer en Russie ce conte.
Peut-être le mystère ou le côté parfois ténébreux de ce que certains pourraient qualifier de d'âme russe.
Et qu'est-ce que vous dites sur l'âme russe? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas?
Non, ça existe peut-être, mais peut-être le côté un peu sombre, peu souriant au premier abord. C'est vrai que le sourire dans la culture russe, c'est pas un geste de politesse, c'est une expression, c'est une émotion. Donc on sourit pas juste pour paraître poli, on sourit s'il y a une raison particulière, tout comme on pleure s'il y a une raison. Je ne sais pas, peut-être ce côté sombre, un peu ténébreux, qui semble l'attirer dans ses expressions artistiques, elle qui est très passionnée par l'œuvre de Edgar Allan Poe aussi. Je crois que dans la vie russe, dans la culture russe, dans le folklore russe, il y a un petit côté Edgar Allan Poe.
Qui est pourtant américain.
Oui.
Et donc le portrait de Lénine qu'on voit dans le clip, les images de la Révolution, est-ce que c'est pas quand même quelque chose qui peut, pour un Russe, être un petit peu, je ne sais pas si on peut dire choquant, mais en tous les cas
un petit peu gênant. C'est très surprenant. Non, c'est pas du tout gênant, c'est très surprenant en fait. Ça provoque un sourire surpris, mais non, pas du tout choquant. Au début, on se dit, Qu'est-ce qu'elle veut dire d'après vous? Qu'est-ce que Laurent Boutonnat voulait dire en inspirant ça? Mais après, on comprend que c'est une histoire d'amour et que l'amoureux, malheureusement, ne peut pas être avec Mylène Farmer parce qu'il est presque exécuté par les bolcheviks qui font une révolution. Et après, c'est l'inverse qui se passe. C'est l'amoureuse qui décède parce qu'il y a une sorcière qui... Il y a toujours beaucoup de mystères dans ce qu'ils font. Il y a toujours plusieurs... option d'interprétation.
Il y a un message politique, selon vous, ou il n'y en a pas du tout?
Je pense pas. En tout cas, pas dans ce clip-là.
Le clip de son tube Désenchanté, Sergueï Chikhalov, a été tourné en Europe de l'Est, en Hongrie exactement. Est-ce que vous pensez qu'elle avait une fascination malgré tout un peu romantique pour ce qu'avait pu être le bloc de l'Est, elle qui a grandi au moment où le rideau de fer était encore là?
Fascination, je pense que oui. En tout cas, beaucoup d'intérêt pour l'Est en général. Peut-être parce que c'est très riche, visuellement parlant. C'est quelque chose qui surprend par l'image, par l'esthétisme visuel.
Et qu'est-ce que c'est que cet esthétisme visuel qui serait spécifique de l'Est de l'Europe?
Ce ciel gris, ces plaines éternelles, ces paysages enneigés, la forêt, les bois, des gens un peu souriants, un peu rudes, ces cafards qui se baladent un peu partout dans les
gens. Jusque dans la soupe de Mylène Farmer, enfin de son personnage dans le clip Désenchanté.
Le côté sombre, des lumières tamisées... puis aussi cette menace qui semble planer dans l'air en permanence. Au début, elle se fait attaquer par des gamins avec des boules de neige. Il y a quelque chose de très romantique, romanesque dans toute la culture des pays de l'Est, je trouve. je pense que peut être facilement fasciné et peut-être terrifié par ça. C'est une certaine romancisation, en fait. La beauté de toute activité artistique, de toute création, et de pouvoir défigurer un tout petit peu la réalité pour souligner quelque chose, pour mettre en exergue un détail, deux détails, ou au contraire, éteindre la lumière quelque part, sans toutefois rendre inexistant l'objet en question, juste le flouter un tout petit peu.
Revenons un moment à ces interviews que Mylène Farmer a données à la radio russe en 2000, en particulier à celle accordée à Europa+. À un moment dans l'archive, l'animateur l'interroge sur son déménagement supposé aux États-Unis. On écoute.
Mylène Farmer, на Европе плюс.
Mais là encore, c'est une mauvaise information. Je suis allée à Los Angeles là pour enregistrer un de mes albums. J'ai oublié lequel. Et je suis restée près de 8 mois là-bas. Ce n'était pas un déménagement, mais simplement la volonté que d'enregistrer, de prendre mon temps pour écrire cet album. Et ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Donc voilà, je n'ai jamais eu l'intention que de vivre aux États-Unis, en tout cas pas encore.
В Америку я поехала, чтобы записать один из моих альбомов.
Encore, ce sont des propos de journalistes. C'est toujours très réducteur quand on parle d'une personne. Là, en l'occurrence, on fait le rapprochement d'avec Madonna. Je vais essayer de faire court. Parce qu'il y a une envie de danseur sur scène, une envie de show, entre guillemets, dit à l'américaine, c'est-à-dire vraiment avec tout ce que peut comporter l'idée du spectacle. Voilà, quelque chose de très intimiste, je n'en ai pas encore envie. Voilà pourquoi ce rapprochement, j'imagine, avec Madonna, mais ça ne vient pas de chez nous, bien évidemment.
Sergueï Chikhalov, dans l'interview, le présentateur l'interroge sur Madonna, lui demande si elle va s'installer aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça et qu'est-ce que ces questions nous disent au fond ?
Je trouve qu'il n'y a aucun point en commun entre Mylène Farmer et Madonna. Vraiment zéro.
Le sens du show.
Le sens du show, et même pas. Je trouve que les shows de Mylène Farmer ont toujours été très très intimistes. La conception était beaucoup plus poétique, avec beaucoup plus de sens, beaucoup plus de signification derrière les décors.
Est-ce que le fait que cette question sur les États-Unis vienne, alors évidemment, vu de France, on a ce réflexe de se dire, ah bah oui, c'est la vieille rivalité russo-américaine. Est-ce que vous pensez que ça joue ou pas du tout ?
Non, pas du tout. Et au contraire, je pense que dans les années 2000, où Mylène Farmer est passée, les États-Unis commençaient à devenir un pays cordial, un pays amical pour la Russie. Il y avait de plus en plus d'artistes américains qui se produisaient en Russie. Madonna, elle est bien sûr très connue en Russie et très bien identifiée. Je pense que c'était un complément de la part du journaliste de dire qu'elle avait le statut de Madonna, c'est-à-dire qu'elle était aussi connue que Madonna en Russie, ce qui est le cas. Mais non, il n'y avait pas de rivalité en 2000. Je pense que voilà, la période entre 2000 et jusqu'en 2009, on va dire, il n'y avait pas de rivalité entre la Russie et les États-Unis. Pour une fois, c'était des pays plus ou moins amicaux.
En 2009, à l'occasion de la sortie de son album Point de Suture, Mylène Farmer retourne une nouvelle fois en Russie et le mentionne dans une interview au journal télévisé de France 2.
Et puis la Russie, avec une étape à Moscou bientôt. Bonsoir Mylène Farmer, merci d'être avec nous.
C'est moi qui
vous J'ai cru comprendre depuis quelques années maintenant que vous n'aimez pas du tout ce type de rendez-vous en direct, une interview comme ça à la télévision.
Je les crains plus que je ne les aime pas, mais j'ai
pourquoi les
plus de facilité sur scène, j'avoue, devant 12 000 personnes que dans un journal.
C'est de la timidité ?
Probablement.
Comment vous expliquez cette relation si particulière que vous avez avec ce public ? Vous cherchez peut-être pas à l'expliquer ?
J'ai du mal à trouver les mots, à trouver une réponse. Est-ce que c'est une... Je sais pas, peut-être une sincérité de ma part, mais encore, je ne pense pas que ça explique les choses.
Quand dites-vous que vous êtes mystérieuse, douce, sombre, fragile, il y a plein de choses, et un peu tout et son contraire parfois, lequel de ces qualificatifs vous sied le mieux ?
Je prendrais douce, j'espère, et sombre à la fois. Quant au mystère, vous savez, je crois que c'est plus une discrétion de ma part.
Et à ce moment-là, Laurent Delahousse, qui s'attendait sans doute à une réponse plus longue, est un peu interloqué. Et les téléspectateurs ont pu assister à un blanc assez long, inhabituel dans un journal de 20 heures, mais habituel, Sergueï Chikhalov, quand on regarde des interviews avec Mylène Farmer.
Et ça fait plaisir, en fait. Ça fait partie de la nature de Mylène qui plaît, je pense, aussi. Ces petits malaises très doux et sincères. Je crois que ça fait partie des raisons pour lesquelles elle est aussi attendrissante.
Deux sociologues français, Arnaud Alessandrin et Marielle Tools, ont réalisé une étude sur le public de Mylène Farmer et les résultats montrent que 55% des fans français se déclarent homosexuels, 80% même si on prend seulement en compte les hommes. Cette prévalence des gays parmi ses fans n'existe pas de la même façon en Russie, on l'a vu, mais elle est très présente en France et en Belgique. Pour l'écrivaine Amélie Nothomb, le côté non-binaire de la chanteuse a également participé à son intérêt pour elle. Extrait d'un sujet de Frédéric Pommier.
Je pense que même si mes livres sont a priori très différents, enfin, n'ont rien à voir avec son univers, parfois, je pense que c'est pas pour rien que beaucoup d'amateurs de Mylène Farmer lisent mes livres, il y a des passerelles. J'aurais du mal à vous dire lesquelles, mais je le sens, quoi. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Moi, j'écoutais beaucoup Mylène pendant les années 80. J'aimais énormément. C'est surtout cette période-là que j'ai adorée dans la carrière de Mylène.
À cette période-là, Mylène Farmer chantait qu'elle était libertine et elle se posait la question de son identité sexuelle.
Il me semble qu'il n'y a pas eu d'autre jeune femme qui parlait si crûment et en même temps avec tant d'élégance de cette question à cette époque-là. C'est une question qui avait été abordée par pas mal d'hommes, comme par exemple David Bowie. Mais il n'y avait pas de femme qui le faisait. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer combien c'était libérateur de voir une jolie jeune femme oser se poser tout haut et de façon transparente des questions sur son identité sexuelle. Surtout, je suis un garçon. Quand on a 18-20 ans, on se demande de quel côté on est. C'est pas parce que la nature vous a donné un corps de femme que c'est si simple de savoir exactement où on se situe.
Et puis on ne le sait pas assez, mais il y a plein de références poétiques dans les chansons de Mylène Farmer.
Il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, Mylène chantait Baudelaire. Il y a une chanson de Mylène qui s'appelle L'horloge. C'est un poème de Baudelaire chanté par elle. C'est très très beau.
Horloge, Dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit souviens-toi.
Dans cet album-là, il y a également une chanson qui s'appelle Alan.
Oui, Edgar Allan Poe, bien sûr. Le clip était sublime et au concert de Bruxelles, moi bien sûr j'étais à Bruxelles. C'était superbe parce qu'il y avait des portes de feu qui s'ouvraient et la chanson était très 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 belle. Donc on n'avait qu'une seule envie quand on avait écouté cette chanson, c'était de se jeter sur l'œuvre de Poe.
Sergueï Chikhalov, votre regard sur cette archive de votre consoeur, l'écrivaine Amélie Nothomb.
Je rejoins complètement Amélie Nothomb, comme souvent, parce que je trouve qu'elle dit souvent des choses très intéressantes, très pertinentes. C'est-à-dire que le mot « élégance », ça qualifie pour moi le mieux ce que fait Mylène Farmer. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on lui reproche aussi, de ne pas aborder certains sujets, de ne pas être engagé, de ne pas tenir ceci, cela. Mais c'est justement cette frontalité du monde contemporain qui me gêne aujourd'hui. Et je trouve que l'engagement prend souvent des formes très violentes, pour ne pas dire grossières. Et Mylène Farmer, elle a toujours su éviter de le faire. Elle a abordé tout un tas de sujets. Et surtout, vous avez évoqué cet ouvrage qui est extraordinaire, cette étude sociologique.
Contredit ce que vous disiez, enfin, votre oui. ressenti en tous oui. les cas sur le fait que dans la communauté des fans de Mylène Farmer, il y avait beaucoup de gays et de lesbiennes.
Mais je pense tout simplement que déjà cette question qui est de se déclarer ou de se définir, je la trouve très réductrice. Et j'aimerais bien qu'un jour, qu'on puisse s'en passer. Pour ne pas être réduit ou défini par notre sexualité, par notre identité ou par autre chose, et pour qu'on puisse enfin se parler, s'apprécier, prendre en compte davantage nos intérêts, nos passions, nos compétences et nos talents, plus qu'autre chose.
comme on l'a vu, Mylène Farmer n'existe pas dans la vraie vie, on peut néanmoins communiquer avec elle de façon détournée et bizarre, soit en faisant tourner les tables, soit en achetant une page de publicité dans le quotidien Libération. C'est ce qui s'est passé le 24 mars 2014, quand des fans ont réservé une pleine page de publicité sur laquelle était imprimée « Mylène, ceux qui t'aiment te saluent ». C'était une référence à une autre annonce, publiée le 18 mai 1989, dans ce même quotidien, qui disait déjà « Mylène, ceux qui vous aiment vous saluent ». Une semaine plus tard, en 2014, elle répondait par un dessin publié dans ce même journal. Combien d'autres stars pourraient en dire autant sur leur rapport avec leurs fans ? Sans doute pas beaucoup.
Alors à quoi ça ressemble un collectionneur de Mylène Farmer, puisque vous les voyez défiler?
Ça va de 7 à 77 ans, vraiment. Hier j'ai une petite fille qui a 11 ans, donc elle a vraiment pas dû connaître le début, et ça fait un an qu'elle est fan, et vraiment une petite gamine adorable, et j'ai eu un bon papy qui avait sincèrement dans les 70 ans, qui m'a acheté des maxis, et j'ai cru que c'était pour faire un cadeau, non c'était pour lui, parce qu'il l'aimait beaucoup. Et c'est souvent des gens très posés. Enfin, c'est assez paradoxal, en fait. C'est comme elle, je crois. C'est soit des gens très posés, soit des gens quand même hystériques. C'est assez rigolo.
Un commentaire sur cette archive, Sergei Chikalov.
Cette capacité de Mylène Farmer à fédérer m'a toujours étonné, m'a toujours impressionné. Elle a su, et elle le fait encore, réunir des gens très très différents, des caractères, des profils, des natures très très variées, des métiers différents, des âges, tous les âges, tous les accents. Ce sont des gens très sensibles, parfois très fragiles.
Et des collectionneurs.
Des collectionneurs, mais ce qu'on voit à la télé ou dans la presse, on a l'impression que ce sont des fétichistes qui sont obsédés par Mylène Farmer, qui ne vivent que pour elle. Il y en a, certainement, mais il y a aussi des collectionneurs qui ne sont pas des fétichistes, pour qui Mylène Farmer ne relève pas de l'idolâtrie, mais c'est quelqu'un qui accompagne leur vie, et comme des gens ont des gris-gris, comme des gens ont des bracelets, des livres qu'ils aiment bien, bah, ils collectionnent les disques de Mylène Farmer.
Mylène Farmer, personnage aérien, a toujours évité de prendre position dans le réel. Je le répète, dans le monde fictionnel où elle évolue, c'est-à-dire dans la tête des gens qui l'aiment et qui l'écoutent, il n'y a pas de consigne de vote. Elle a choisi de réenchanter un monde désenchanté, de s'évader dans un pays de fiction. Est-elle pour autant totalement désengagée ? On ne l'entend pas sur l'Ukraine, sur les homosexuels privés de parole en Russie, sur les opposants jetés en prison. Et pourtant, dans les clips de Mylène Farmer aussi, il y a souvent des soldats. Des soldats russes qui tuent et se font tuer, comme dans Tristana. Des soldats de la guerre de 7 ans, comme dans Pourvu qu'elle soit douce, ou bien ce camp de travail dans Désenchanté. Au fond, l'engagement de Mylène Farmer se trouve peut-être là, dans sa défense de l'humanité en général, sans citer de nom, mais sans contrefaçon. Mylène Farmer pour de vrai, une mini-série en 2 épisodes de Salle des Archives par Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisation Nathalie Salle, attachée de production Lily Cornaer, prise de son Clara Gallivel, mixage Manon Houssin.
Voir la blessure, obliquée dure, du temps obstiné.
Is heaven a place? Oh, I see the moon. Oh, I see no trace of you.
Refais le rêve obscur d'une île, des forêts secrètes aux villes, qu'on parcourait seul dans.